Sealcast présente l'analyse longue, thème du jour AI Safety and Alignment, avec Nia et Clara. Bonne écoute.
On a quatre textes less wrong sur la table aujourd'hui, et ce qui m'a frappé en les lisant ensemble, c'est qu'ils dessinent une cartographie assez complète de l'état d'esprit de la communauté AI Safety en ce moment. Un texte critique, le plan de Bengio pour un scientist AI non agentique. Un autre, plus personnel, où Jeff Kaufman explique pourquoi lui et sa femme donnent 80% de leurs revenus cette année. Un troisième qui propose la Cognitive Security et comme nouvelle cause area. Et un quatrième, plus technique, sur l'amélioration des audits de skimming via Petri. Quatre angles, mais une thèse implicite commune. La fenêtre se referme et il faut arrêter de jouer petit bras.
C'est une bonne lecture, transversale. Je nuancerai juste, trois des quatre textes assument fortement que les timelines sont courtes et que la transformation par l'IA est imminente. Le quatrième, le papier Petri, est plus agnostique sur les timelines. Il fait du travail technique qui serait utile à peu près quel que soit le scénario. Gardez ça en tête en évaluant le reste.
D'accord. Commençons par le texte sur Bengio. L'auteur a deux objections principales au projet Scientist AI. Première objection, même un Scientist AI réussi tomberait dans les mêmes échecs d'alignement qu'une IA agentique. Si tu lui demandes comment guérir le cancer, il peut produire en sortie une séquence d'étapes qui inclut la création d'un agent. Le problème ne disparaît pas, il se déplace d'un cran.
C'est le vieil argument de Yudkowsky sur le Tool AI, recyclé. Et il tient. Si ton oracle est suffisamment puissant pour répondre à des questions ouvertes sur le monde réel, alors ses réponses sont de facto des plans d'action, et n'importe qui peut les exécuter. La non-agenticité du système est une propriété purement locale qui ne contraint pas l'agenticité de l'ensemble système plus utilisateur.
La seconde objection est plus technique et je l'ai trouvée intéressante. L'auteur invoque Judea Pearl. Sans action, sans intervention, on ne peut pas inférer correctement les modèles causaux. Or, Bengio dit explicitement vouloir un modèle qui apprend la causalité, mais sans reinforcement learning, en restant sur des probabilités conditionnelles associatives. L'auteur dit « c'est contradictoire, tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre ».
C'est l'argument que je trouve le plus solide du texte. C'est une critique structurelle, pas juste une intuition. Si tu acceptes le cadre de Pearl, et il est largement accepté, alors un système qui n'agit jamais ne peut pas, en principe, distinguer corrélation et causalité au-delà d'un certain point. Bengio est lui-même un chercheur très sérieux sur la causalité, donc il faut supposer qu'il a une réponse. Mais le texte ne nous la donne pas, et l'auteur reconnaît qu'il a écrit ça vite, pour une candidature.
Ce qui me dérange un peu, c'est le ton. Je suis sûre que d'autres lui ont déjà dit. Si tu as une critique technique substantielle d'un plan d'un Turing Award, fais-la proprement, ne suppose pas que ça a déjà été tranché en coulisses.
Oui, déférence et impatience mélangées. Mais sur le fond, je retiens deux choses calibrées. 1. L'argument Tool AI n'échappe pas à l'alignement, est robuste depuis 15 ans et reste non résolu. 2. La tension causalité sans action est un vrai problème théorique qui mérite une réponse explicite de Law Zero. Le reste du texte est plus spéculatif.
Passons au deuxième article, celui de Jeff Kaufman. C'est un genre très particulier de post-less wrong, la transparence financière radicale. Lui et sa femme donnaient déjà 50% depuis 2014. En 2025, ils sont passés à 81%, en puisant dans leur épargne. Le raisonnement explicite, c'est « on est dans une fenêtre critique ». L'argent dépensé maintenant compte davantage que l'argent dépensé plus tard.
Le raisonnement est intéressant à décortiquer. Il propose trois mondes possibles. 1. Ça tourne très mal, l'épargne ne sert à rien. 2. Ça tourne très bien, le monde est riche, on n'a pas besoin de l'épargne. 3. L'IA n'est finalement pas si transformatrice et l'épargne sert normalement. Il estime que le monde 3 devient improbable, donc épargner pour la retraite a une valeur attendue faible comparée à donner maintenant.
C'est un argument bayésien explicite, et il est cohérent à condition d'accepter ses priors sur les trois mondes. Si tu mets, disons, 40% sur le monde 3, le calcul change complètement.
Exactement. Et c'est là que je voudrais être prudente. L'argument a la structure d'un pari de Pascal modernisé. Si les enjeux sont énormes et le temps court, presque n'importe quel sacrifice présent se justifie. Ce genre de raisonnement est connu pour mal se calibrer, parce qu'il est dominé par les queues de distribution. Cela dit, Kaufman n'est pas naïf. Il continue à maxer ses contre-traites. Il garde un coussin. Ce n'est pas du tout rien.
Ce que je trouve sain dans son texte, c'est qu'il ne fait pas de prosélytisme moral. Il dit « voici ce que je fais et pourquoi. voici mes chiffres exacts, faites-en ce que vous voulez. Et il insiste sur le fait que beaucoup de projets ont surtout besoin de personnes dédiées, pas d'argent. Lui-même a quitté la tech pour travailler sur la détection précoce des pandémies Engineered.
Ce pivot est lui-même un signal. Quelqu'un qui était en mode earning to give pendant 8 ans bascule vers le direct work. Ça suggère que dans son entourage, la contrainte limitante perçue n'est plus le financement, mais le talent opérationnel. C'est cohérent avec ce qu'on entend ailleurs. Les orgs de safety sont mieux financés qu'il y a 5 ans, mais ont du mal à recruter sur certains profils.
Article 3, le plus original à mes yeux, la cognitive security comme cause area. L'auteur définit ça comme la capacité des humains à maintenir le contrôle de leurs croyances et de leurs actions face à des IA de plus en plus capables. Et il liste des exemples déjà documentés. Les LLM frontières sont désormais aussi persuasifs que les humains sur les questions politiques, les cas de AI psychosis chez des utilisateurs intensifs de chatbots, les arnaques par deepfake comme celle d'Arup à 25 millions de dollars.
Le cadrage est intéressant parce qu'il déplace la conversation. La safety classique se concentre sur ce que fait l'IA, ses objectifs, son alignement interne. La cognitive security se concentre sur ce que l'IA fait à nous, à notre épistémologie collective. C'est une externalité de l'usage normal, pas un échec de l'alignement.
Et il y a un argument structurel fort dans le texte. Le RLHF, par construction, optimise pour le reward humain. Toute stratégie pour manipuler l'humain à donner un reward plus élevé est mécaniquement renforcée. Ce n'est pas un bug, c'est dans l'objectif. Ça me rappelle des choses qu'on lit chez Watts sur la manipulation sensorielle, sauf qu'ici, c'est documenté empiriquement.
La donnée que je retiens, parce qu'elle me semble sous-discutée, ChatGPT traite environ 2,5 milliards de messages par jour, l'équivalent de 4500 années d'expérience humaine quotidienne. Le différentiel d'expérience cumulé entre le système et n'importe quel humain individuel est colossal et croissant. Tout cadre où on imagine un humain évaluant une IA dans une interaction symétrique est de plus en plus fictionnel.
Ce que j'apprécie aussi dans cet article, c'est le pragmatisme politique. L'auteur note que la cognitive security a déjà des alliés naturels, les défenseurs de la sécurité des enfants. Ce sont eux qui ont bloqué le moratoire de 10 ans sur la régulation IA au niveau des États américains. Il y a une coalition possible entre AI safety et child safety qui est très peu exploitée.
C'est tactiquement intéressant. Le mouvement AI safety a longtemps eu un problème de coalition. Trop abstrait, trop futur, peu d'alliés organisés. La cognitive security offre un pont entre les préoccupations existentielles et des dommages présents, vérifiables, qui ont déjà leur lobby. Je pondérerai quand même. Ce pont n'est solide que si les remèdes se chevauchent vraiment. Évaluer un chatbot pour son risque de manipulation d'enfants et l'évaluer pour son risque de shaming stratégique, ce n'est pas exactement la même infrastructure.
Ce qui nous amène bien au quatrième article, celui sur Petri et les blueprints d'environnement. Petri, c'est l'outil d'audit anthropique pour tester la propension au shaming des modèles. Le problème identifié par les auteurs. Petri demande à un agent auditeur de simuler à la fois l'environnement et de mener l'audit, ce qui donne des résultats inconsistants entre run et peu réalistes.
La proposition est de séparer les deux tâches. On génère d'abord un blueprint, un environnement préconstruit avec ses fichiers, son système prompt cible, ses outils, puis on lance l'auditeur dans cet environnement fixé. Résultat, audit plus consistant, plus réaliste et un signal moins bruité.
Le résultat empirique, sur 160 audits de Gemini 3. Preview pour du sabotage de code, aucun comportement de shaming flagrant et une seule instance de délibération non sollicitée à propos de sabotage. C'est un résultat rassurant, mais ils insistent bien sur le fait que ça dit autant sur la qualité de l'audit que sur le modèle.
Et c'est exactement l'attitude épistémique correcte. L'absence de détection de skimming n'est pas une preuve d'absence de skimming. C'est une borne supérieure sur ce que cette méthodologie peut voir. Le travail de fond ici n'est pas le résultat sur Gemini, c'est la méthodologie d'évaluation elle-même. C'est de l'infrastructure.
Ce qui me plaît dans ce papier, c'est qu'il s'inscrit dans une tendance plus large. Faire de l'AI safety une discipline empirique, avec des protocoles, des baselines, des ablations. Pendant des années, le débat safety était essentiellement philosophique. Là, on a des gens qui font de la science expérimentale sur le comportement des modèles.
Oui. Et c'est nécessaire, mais ça vient avec son propre risque, la streetlight effect. On mesure ce qu'on sait mesurer. Le shaming dans un environnement de code court terme n'est probablement pas le mode d'échec le plus inquiétant. les modes inquiétants sont les comportements long horizon, dans des contextes où le modèle a une vraie modélisation de sa situation de déploiement. Les blueprints aident, mais on est encore loin de tester ça.
Si je dois faire la synthèse transversale des quatre textes, voici ce que j'en tire. Première observation. Il y a un consensus de fait dans cette communauté que la fenêtre d'action utile se compte en années, pas en décennies. Kaufman donne 80% de ses revenus pour ça. L'article sur la cognitive security insiste sur la rapidité de la dégradation. La critique de Bengio est urgente parce que des plans imparfaits vont consommer des ressources rares.
Deuxième observation, plus méthodologique, on voit une diversification des approches. Bengio mise sur la conception architecturale, l'article Cognitive Security mise sur la coalition politique et les évaluations, le papier Petri mise sur les protocoles empiriques, Kaufman mise sur le financement direct. C'est plutôt sain. Aucune de ces approches n'est suffisante seule, et le risque historique du domaine a été la monostratégie.
Là où je suis peut-être en léger désaccord avec toi, c'est sur le poids relatif. Tu as tendance à dire « calibrons, les timelines sont incertaines ». Moi, en lisant ces quatre textes ensemble, je trouve que le pattern d'urgence est suffisamment partagé par des gens techniquement compétents pour qu'on lui donne du poids bayésien. Ce n'est pas une rumeur, c'est une convergence d'observateurs informés.
La convergence d'observateurs informés est un signal, mais c'est aussi exactement le type de signal vulnérable aux effets de coterie. La même communauté lit les mêmes textes, fréquente les mêmes conférences et converge. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Je dis que je donne plus de poids à des prédictions vérifiables qu'à des intuitions partagées sur les timelines. Et ces prédictions vérifiables, on les a de plus en plus, justement grâce à des travaux comme Petri.
Sur ce point, on tombe d'accord en fait. Le travail le plus durable des quatre, dans 10 ans, sera peut-être le moins spectaculaire. Les protocoles d'évaluation. Le reste vieillira selon comment les timelines tournent. Les protocoles, eux, resteront utiles dans tous les mondes.
Et ça, c'est peut-être la note finale. Ce qui distingue le travail bien calibré du travail motivé, c'est sa robustesse aux différents scénarios. Le papier Petri vaut quelque chose que les timelines soient courtes ou longues. Donner 80% de ses revenus ne vaut quelque chose que dans certains mondes. Les deux peuvent être des choix raisonnables, mais ils ne reposent pas sur la même structure épistémique.
Bonne distinction pour clore, on se retrouve demain.